Mes bien chers frères et mes bien chères sœurs dans le Christ, que l'amour, la paix, la joie et la miséricorde du cœur du Père en le Fils et en les feux de l'Esprit Saint, feu d'amour et feu de gloire, soient avec vous maintenant et pour toujours. Mes bien chers amis, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à l'enregistrement d'un autre vin nouveau du Seigneur, intitulé « Aimer et servir l'Église, lui être fidèle, quoi qu'il arrive !» Point d'exclamation. Si vous me le permettez, j'aimerais, en guise d'introduction à ce partage, expliquer d'abord l'origine, le sens et la portée de ce titre, et en particulier l'exclamation de la fin du titre, « Quoi qu'il arrive ». J'ai déjà eu l'occasion de vous expliquer qu'au début des fondations, l'Esprit du Seigneur nous a mis dans le cœur de prononcer deux vœux. Un premier vœu de pratique exemplaire et héroïque de la charité fraternelle et communautaire, et un vœu d'amour, de fidélité, et de service à l'Église, quoi qu'il arrive. Cette exclamation, quoi qu'il arrive, explicitée dans l'inspiration initiale du Seigneur, a été pour moi et pour nous, je vous le confesse, de prime abord du moins, et pendant de nombreuses années, une véritable énigme. Pourquoi cet ajout? Pourquoi cette précision? Mais depuis 1984, début de la mission publique des fondations, et mission sous le slogan « Église, évangélise-toi toi-même encore davantage », le sens de cette exclamation s'est précisé, s'est concrétisé de plus en plus, surtout après la prophétie choc reçue en 1984, m'avertissant d'avance de certaines réactions négatives éventuelles, pour le moins surprenantes. Aujourd'hui, le « quoi qu'il arrive » n'est plus un mystère. Il nous évoque déjà, et ce n'est pas terminé, deux choses claires et nettes déjà arrivées et en cours, et une chose qui va arriver à coup sûr. Les deux choses déjà arrivées, la première, c'est la mer debout qui a été déclenchée, comme vous le savez, et alimentée depuis 1987 par des dirigeants d'Église et de mouvements dits charismatiques. Tout cela m'avait été prophétisé 3 ans plus tôt, comme je viens de le dire. La deuxième confirmation du « quoi qu'il arrive », c'est la prise de conscience de plus en plus forte que ce qu'on appelle les faux prophètes, les faux docteurs, les faux pasteurs, les faux successeurs d'apôtres dont nous parlent le Seigneur et les apôtres des premiers temps, bref, les loups à craindre, au milieu desquels nous avons été envoyés en mission, sont non pas tant à l'extérieur de l'Église, mais 3 sur 4, bel et bien parmi nous, au milieu de nous, déjà dans la bergerie. En général, nous avons développé des mécanismes de défense, des anticorps face aux adversaires extérieurs à l'Église. Mais nous sommes, hélas, souvent sans immunité, sans défense, face aux hommes et femmes dits d'Église, qui nous induisent, consciemment ou inconsciemment, en erreur, en doute, pour ne pas dire en tentation de rejeter ou d'abandonner. Nous sommes souvent pris par surprise, car nous n'en croyons ni nos yeux ni nos oreilles. et nous ne nous méfions pas leurs titres, leurs fonctions, leurs qualifications, leur dévouement et bonne volonté nous ont peu à peu aveuglés, endormis et trompés. Non seulement notre réveil soudain peut être brutal, cruel, bouleversant, mais il peut être très dommageable et parfois même fatal pour plusieurs. Quant à la troisième chose certaine qui va arriver, sous le couvert du « quoi qu'il arrive » en question, et à laquelle il faut très bien se préparer d'esprit et de cœur, c'est la transformation radicale, profonde et prochaine de l'Église. Le passage du style 1 actuel, blessé à mort, au style 2 du nouveau renouveau continu, va faire passer et vivre à l'Église un désencombrement sans précédent, une purification incroyable. J'oserais même échapper l'expression forte et à la fois paradoxale, une décomposition bienfaisante. En ce sens que l'Église va être décapée à fond, allégée d'une foule de complications compliquées, de trucs et de machins superflus, qui n'ont fait que l'alourdir, la ralentir et finalement l'affaiblir. En l'an 2000, mes frères et mes sœurs, je vous l'assure, comparée à ce qu'elle est aujourd'hui en bien des milieux, l'Église sera à la fois méconnaissable et reconnaissante. Méconnaissable, c'est-à-dire radicalement transformée, bien différente, toute modifiée, et reconnaissante, c'est-à-dire que le peuple de Dieu sera en liesse d'avoir retrouvé une Église vraie, dynamique, simple et sainte. Le quoi qu'il arrive, vient donc nous exhorter à voir venir cette transition avec un regard réaliste, celui de la tribulation-jubilation. Cette purification intense, on l'imagine bien, ne se fera pas sans heurts, sans persécution, sans secousses. Mais grâce à la puissance divine, nous retrouverons l'Église sans tache ni ride, sainte et irréprochable, celle-là même pour laquelle, selon saint Paul aux Éphésiens 5, 25 et 27, le Christ a donné sa vie. Et si j'ai pris le temps d'évoquer avec vous nos découvertes à propos de ces trois occasions d'expliquer le quoi qu'il arrive, c'est que, mes bien chers frères et sœurs, cela vous guette tout autant que nous. En effet, pour peu que vous allez commencer ou simplement continuer à montrer de plus en plus vos vraies couleurs spirituelles et déclarer le moindrement que vous souhaitez et croyez au renouveau à fond de l'Église, au retour imminent de Jésus, au leadership de Jean-Paul II, vous connaîtrez vous aussi une mer de boue. Est-ce que ce sera simplement un lac de boue, une mer ou un océan? À vous d'en juger. Vous aurez en outre, si vous ne l'avez pas encore eu, le choc, non pas culturel, mais spirituel, de découvrir que les loups dont parle Jésus sont dans la bergerie autour de vous. Et quand ce même Jésus nous a avertis, et je le cite, Matthieu 7, 6, « Ne donnez pas aux chiens ce qui est saint, ne jetez pas vos perles aux porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et qu'en se retournant, ils ne vous déchirent. Jésus, par cet avertissement, dans lequel il ne mâche pas ses mots, Jésus ne visait pas uniquement nos ennemis hors les murs, dans les camps adverses, mais bel et bien nombre de nos confrères et consœurs en Église. Enfin, vous et moi allons être à nouveau secoués, fortement mis à l'épreuve, devant le spectacle prochain, aux allures qui seront parfois dramatiques de la grande purification de et en Église, de sa décadence-renaissance ultra-rapide. Comme vous le savez déjà, dans chacune des trois grandes proclamations prophétiques de 92, j'ai eu l'occasion de nous prévenir d'une foule de secousses qui attendent l'Église en cette ère en cours de tribulation-jubilation. Notamment, j'y ai consacré un chapitre, le chapitre 6, dans le Big Bang spirituel, le chapitre 1 de la troisième partie de la quatrième interpellation aux archevêques et évêques, où je disais, entre autres choses, que nous allions connaître un embrouillamini incroyable, une confusion sans précédent, temporaire cependant et providentielle. Et je cite toujours, mes chers évêques, vous allez et nous allons en voir de toutes les couleurs. Et ce ne sera pas toujours uniquement du violet épiscopal, du rouge cardinalis ou du jaune et blanc papal. Le grand nettoyage en et de l'Église, même sous la mouvance de l'esprit et avec le renouvellement des cœurs et des esprits, ne se fera pas sans douleur, sans heurts ou sans peur. Les abcès chauds et froids vont éclater en série et il faudra les vider, en extirper tout le mal. Fin de la citation. Et j'en ai parlé également au chapitre 4 de la proclamation de Jean-Paul II. Il va y avoir, il faut s'y attendre, des événements chocs, et dans les deux sens, pour le meilleur comme pour le pire, des chocs de renaissance tout autant que des chocs de décadence. Et ce sera tantôt pour notre joie et tantôt pour notre croix. Il y a des hommes et femmes d'Église qui, une fois démasqués, vont chuter très bas. Et d'autres, au contraire, vont se redresser très vite et très haut. Il y aura des exemples d'hommes et de femmes d'Église, de pasteurs, de supérieurs ecclésiastiques ou religieux, qui vont tomber littéralement à genoux, envahis par l'Esprit Saint, et vont se reconsacrer à Dieu et demander pardon à leur communauté de fidèles ou de sujets. Et vous savez déjà, car j'ai eu l'occasion de le préciser à diverses reprises, la réponse du Seigneur à mon audacieuse question de 1975. Seigneur, en fait, qu'est-ce qui nous manque à ton Église? Ou nous manque à nous à ton Église? Et c'est le thème de la rencontre d'aujourd'hui. Il y aura aussi choc positif, et je l'avais mentionné dans la prophétie de 84. Beaucoup de prêtres, de religieux, de religieuses seront guéris de leur maladie spirituelle. Leurs yeux s'ouvriront, leurs oreilles entendront à nouveau le langage de l'éternel amour et leur langue liée par la peur annoncera à nouveau que Dieu est saint et qu'il pardonne. Il y aura des réconciliations et des renouvellements de consécration et d'options en lui sans nombre. Et également, les jeunes qui ont été les victimes de notre sevrage spirituel des 30 dernières années retrouveront rapidement et profondément la voie VOIX du Seigneur et la voie VOIE de son Église. Alléluia. Et je souligne en terminant cette introduction que par exception cette fois, la cassette ne sera pas accompagnée d'un schéma développé de l'enseignement, car en fait, j'entends aborder seulement 4 points. Vous retrouverez donc un mini schéma d'accompagnement à l'intérieur du carton ou de la jaquette qui enveloppe la cassette. Nous allons voir successivement 4 chapitres. D'abord, chapitre 1, bien connaître l'Église. Chapitre 2, l'aimer vraiment. Chapitre 3, la servir fidèlement. Et chapitre 4, prier pour elle. Passons au chapitre 1er. Bien connaître l'Église. Et sous ce titre, nous allons considérer 2 points. Qu'est-ce que c'est que l'essentiel de l'Église? Et deuxièmement, quel est le but précis de l'Église? D'abord, vous le savez, préalablement à tout amour, toute amitié, tout désir de service et de prière, il est important d'avoir une juste connaissance. Connaissance exacte de celui ou de celle qu'on veut aimer ou servir. Si l'image de l'être à aimer est fausse, erronée, détruite, décolorée, l'amour, le service ou la prière sont eux-mêmes faussés et plus pénibles. Le qui on aime est important à connaître de façon exacte. Car avoir une fausse image de celui ou de celle qu'on aime peut compromettre le tout. Si l'image est fausse parce qu'elle est mauvaise, parce qu'on a jugé la personne sur son passé, on voit surtout les défauts, on ne connaît pas suffisamment la personne, eh bien, l'amour, le service et la prière sont faussés. Et c'est la même chose pour l'Église. Si notre image de l'Église n'est pas exacte, tout notre engagement va être biaisé. Et c'est la même chose en sens inverse. Si l'image est trop bonne, parce qu'on a idéalisé la personne, on l'a mise sur un piédestal, on a vu que ses qualités, on n'a pas pensé qu'elle pouvait avoir des défauts, qu'il s'agisse d'un conjoint, de son clergé, des évêques, d'un confrère ou d'une consœur, c'est la même chose. Et l'image de l'Église également. Parce que l'Église, en fait, ne s'identifie jamais à l'image vivante et parfaite du Christ. Je n'ai pas l'intention dans cet enseignement de reprendre les définitions classiques de l'Église. Je vous réfère à ces documents exceptionnels. D'abord, la Constitution dogmatique Lumen Gentium, qui est un document du Concile Vatican II, qui est un texte remarquable à connaître, à approfondir. Et j'ajouterais même à méditer et à reméditer. On y traite, entre autres, du mystère de l'Église, du peuple de Dieu, de sa constitution hiérarchique, des laïcs, de la vocation à la sainteté de l'Église, des religieux, de son union avec l'Église du ciel, du rôle de Marie, modèle et mère de l'Église, etc. En plus de ce document, qui est une constitution dogmatique sur l'Église, il y a dans les documents de Vatican II la constitution dite pastorale sur l'Église. Elle est intitulée « L'Église dans le monde de ce temps ». Gaudium et Spes, joie et espérance. C'est également un document remarquable sur la mission de l'Église dans la communauté humaine. Entre autres choses, on y parle de la dignité de la personne, de la dignité de la famille, de l'intérêt qu'on doit avoir à la culture, à la vie politique, économique, internationale, etc. Et enfin, je vous exhorte à parcourir les pages très riches dans le nouveau catéchisme. En particulier, toute la section qui commente l'article du Credo « Je crois à la Sainte Église catholique ». Il y a là 47 pages qui vont des articles 748 à 975, et on y parle notamment de l'Église dans le dessein de Dieu, l'Église, peuple de Dieu, corps du Christ et temple de l'Esprit-Saint. Ce que je veux partager avec vous, c'est ce que l'Esprit a fait monter dans mon cœur. L'Église, dans son essentiel, qu'est-ce que c'est au juste? C'est l'assemblée, le rassemblement, la communauté, c'est ça que veut dire le mot « ecclésia », de tous ceux et de toutes celles qui font partie du peuple de Dieu en marche, à la fois de Dieu en marche vers son peuple et du peuple en marche vers son Dieu. Donc le rassemblement de tous ceux qui s'intéressent à cette double marche de Dieu vers son peuple et du peuple vers Dieu. Mais une marche qui se fait à son appel, à lui, sous sa mouvance, pour sa gloire et avec ses résultats, c'est-à-dire ses fruits spirituels qui sont le bien des âmes. Ce sont d'ailleurs ces quatre caractéristiques qui font toute la différence entre le style 1 et le style 2. Dans le style 2, cette marche se fait sous son appel, alors que dans le style 1, ce sont nos inspirations. Dans le style 2, c'est sous sa mouvance, alors que dans le style 1, c'est sous nos efforts. Dans le style 2, c'est pour sa gloire, et dans le style 1, trop souvent, pour notre gloriole. Et enfin, dans le style 2, on obtient ses résultats spirituels à lui, alors que dans le style 1, on collectionne nos fruits et nos résultats à nous. Cette marche du peuple de Dieu, de par la volonté divine même, doit se faire sous un leadership de chef spirituel et de pasteur, spirituellement exemplaire, entraînant et inspirant, et a besoin d'un minimum d'institutions pour s'incarner, se conserver et rayonner dans le monde. Donc un minimum de corps pour aider l'âme de ce peuple, de cette communauté, à mieux accueillir Dieu et aller vers lui. Donc, deux éléments importants et indispensables à bien intégrer, selon le désir de Dieu, la nécessité d'une institution minimale et d'une hiérarchie. Donc, une institution à la fois structurée et hiérarchisée. Mais l'essentiel, c'est que cette double marche entre lui et nous, aller-retour, de haut en bas et de bas en haut, partout où ces deux mouvements sont en marche, on retrouve l'Église. Si c'est en marche dans un couple, il y a l'Église domestique, familiale. Si on retrouve cette double marche dans une communauté religieuse, il y a une Église communautaire, paroissiale, diocésaine, institutionnelle ou religieuse. Donc, c'est cette Église avec laquelle il faut tomber d'accord, qu'il faut aimer, servir avec fidélité. Ce rassemblement de tout ce peuple qui accueille la marche de Dieu vers lui et se met en marche vers son Dieu. C'est ça l'Église dans ce qu'elle a d'essentiel. Et ce n'est pas l'essentiel de l'Église que le clergé, les structures, les cadres, les règlements, la pastorale, les mouvements, les priorités, tel style ou tel autre, tel homme ou telle femme d'Église. L'essentiel, c'est ce que l'on vient de considérer. Et vous le savez comme moi, que de gens ont quitté l'Église, donc l'essentiel, parce qu'ils ont été blessés, déçus, bousculés, scandalisés, soi-disant par ou en Église, alors qu'en fait, ils ne l'ont été que par des aspects secondaires imparfaits. Il est donc important de reviser notre notion de ce qui est essentiellement l'Église. Et comprenons, accueillons, favorisons, réjouissons-nous et engageons-nous surtout et avant tout dans ces deux mouvements. Cette Église qui est en marche, du Dieu en marche vers son peuple et du peuple en marche vers son Dieu. Le Christ, pour nous, c'est précisément celui qui est venu à la croisée des chemins de ces deux marches, au point de relais des deux marches. Et c'est pourquoi on l'appelle le médiateur. C'est saint Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 20, qui dit « Vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes, et pour fondement Jésus-Christ. Cette intégration dans la construction, par et en Jésus, nous fait devenir une demeure de Dieu par l'Esprit. » Je voudrais maintenant dire quelques mots dans ce chapitre sur l'Église et son but. Mes frères, bien des gens se trompent continuellement dans leur jugement sur l'Église, ses déclarations, ses options, ses actions, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas ou ne veulent pas reconnaître le vrai but de l'Église et donc sa nature et son rôle véritable. Ils et elles ne cessent donc de la prendre ou de la trouver en défaut, précisément parce que l'Église ne poursuit pas les objectifs qu'il croit qu'elle a ou qu'il voudrait qu'elle ait. Essayons donc rapidement de tirer tout cela au clair. La première affirmation est celle-ci. L'Église n'a pas pour but premier de faire de bons citoyens du monde, mais elle a pour but de faire des saints et saintes pour la gloire de Dieu. Tout l'enseignement de Jésus, ses conseils, ses rappels à l'ordre, ses mises en garde, bref, la bonne nouvelle de Jésus, en son essentiel et sa totalité, converge toujours, d'abord et surtout, vers un seul et même idéal de vie. Celui qu'on retrouve dans le Lévitique 19.1, « Soyez saints, car je suis saint, moi le Seigneur votre Dieu. Ou qu'on retrouve dans le sermon sur la montagne, Matthieu 5, 48, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. On ne peut croire et comprendre, donc, les options et les décisions de l'Église que si on reconnaît que tel est son but premier, sa raison d'être et d'agir première. Promouvoir, avant tout, surtout et toujours, la sainteté des âmes. C'est à cette seule condition qu'on peut ou pourra ensuite comprendre, apprécier et approuver ses positions concernant, par exemple, l'avortement, le divorce, l'euthanasie, les abus des riches en tant qu'individus ou en tant que pays, l'homosexualité, l'importance du pardon inconditionnel, l'obligation de réparer ses torts, etc., etc. L'Église, par ses lois et sa rigueur, n'entend pas d'abord formuler ou créer un État ou des citoyens modèles. Elle n'entend pas non plus obtenir que l'autorité civile sanctionne nécessairement par des lois et des règlements tout ce que comprend l'Évangile. Ce fut, nous le savons, parfois notre erreur ou notre intolérance passée. Et c'est l'erreur présente, hélas, des musulmans fondamentalistes qui veulent des États où le Coran deviendrait le code civil de vie. Non! L'Église proclame et réclame avant tout la sainteté, la plus grande possible, de vie. Donc, de cœur et d'esprit, d'âme et de corps. Et l'Église devrait se remettre à le proclamer et à le réclamer encore avec plus d'autorité et par son propre exemple. Des individus de plus en plus saints rendront normalement et progressivement ensuite toute vie sociale, qu'elle soit conjugale, familiale, politique, professionnelle, artistique, scientifique, intellectuelle, vie-travail, etc., rendront toute vie sociale de plus en plus saine et sainte. Mais le royaume de Dieu et donc la sainteté doit d'abord régner au fond des êtres, en leur cœur, esprit, corps et âme individuels, pour ensuite rayonner et transformer le monde et même l'Église. Et quiconque ne sait pas ou ne veut pas savoir ce qu'est la sainteté ne peut pas, à la vérité, connaître ou comprendre les vues, les dires ou les agir de l'Église. Certes, en poursuivant cet objectif à portée spirituelle et éternelle, l'Église n'entend pas y trouver un prétexte pour s'abstenir du réel et pour s'évader du monde. La sainteté vraie ne s'oppose jamais à la connaissance ou à la présence, au monde et aux autres. On le sait bien, Dieu qui est toute sainteté possède les attributs d'omniprésence et d'omniscience. Et si ma vie s'inspire vraiment et se ressource à sa sainteté à lui, nul doute que celle-ci me fera mieux connaître et être davantage présent au monde et aux autres. Bien au contraire, l'Église veut que nous nous engagions dans les réalités d'ici-bas, qui sont périssables et éphémères, on le sait, mais en nous inspirant des réalités d'en haut qui, elles, demeurent et demeureront éternellement. C'est tout un défi, et c'est loin d'être facile, du moins tant que les forces du mal existeront, et en détourneront un si grand nombre de nos frères et sœurs. Soit dit en passant, raison de plus donc pour prier avec ferveur Jésus de hâter sa venue et d'en finir avec Judoka et compagnie. Mais ce n'est pas impossible d'être saint et sainte en ce monde. Les occasions sont innombrables de poser des actes de foi, on le sait, des actes d'abandon, de pardon, de détachement, d'amour. Les occasions sont multiples de vivre toutes les béatitudes. Les occasions ne manquent pas non plus d'offrir nos souffrances en union avec celles de Jésus pour la rédemption du monde. Mes frères et sœurs, personnellement, quand quelqu'un veut discuter avec moi de l'Église, ou de Jean-Paul II en particulier, je lui propose toujours qu'on commence par s'entendre sur le but de l'Église, la mission qu'elle a reçue du Seigneur. Je le redis, l'Église n'est pas un État, pas même un super-État, ou l'équivalent de Nations Unies spirituelles. L'Église est l'assemblée des fidèles en marche vers la vie éternelle, se préparant pendant leur transit ici-bas à le laisser, lui, les sanctifier. Car c'est l'état de sainteté en marche qui est le billet d'admission dans la vie céleste éternelle, en présence du Dieu trois fois saint. Prenons rapidement un exemple. Toute la question des béatitudes énumérées dans l'Évangile, il y en a 9 dénumérées, mais la liste, on le sait, ne s'épuise pas là, ne peut pas se comprendre et se vivre, ou plutôt ne peut se comprendre et se vivre que dans un contexte de sainteté. En effet, pour trouver la paix et la joie de façon non pas seulement continue, mais croissante, au milieu de la pauvreté, de la persécution, des injustices, du rejet, des souffrances, des pleurs, etc., il faut tout un extracteur pour être capable d'extraire du si bon jus pur et nourrissant de fruits et de légumes, si souvent contaminés et avariés même par la vie et les événements. Et cet extracteur, ce robot culinaire, c'est la sainteté. La sainteté vient et croît, du verbe croître, vraiment que là où la vie divine a la chance d'entrer de plus en plus, de s'épanouir, de prendre charge d'un être dans tous les aspects de sa vie. Beaucoup de gens ont souvent tendance à croire que la sainteté est seulement synonyme de bonne conduite parfaite dans un état de vie spécial, un peu à l'écart du monde et des autres. On a cru cela longtemps, en pensant que la vie religieuse ne pourrait alors que produire des saints et des saintes. Et on en est revenu de cette illusion. Bien sûr, un bon cadre, un bon style, un bon rythme de vie ne nuisent pas. Mais encore faut-il que la vie divine soit désirée, accueillie, favorisée en chacun et chacune, et qu'on mette ses chances, toutes ses chances, de notre bord. Par ailleurs, quelqu'un ou quelqu'une, comme on en voit tant de nos jours, qui vit dans un état de vie rempli de défis, d'embûches, de souffrances même, une vie bousculée, bousculante souvent, peut quand même laisser la vie divine l'envahir de plus en plus et réussir sa conquête d'âme et par voie de conséquence, de cœur et d'esprit et de vie tout entière. Et c'est ça, la sainteté. En somme, un vrai de vrai saint ou sainte sera inspiré, veut pas, à devenir un bon citoyen, le meilleur même des citoyens, car la vie divine en lui le pousse à vivre de plus en plus vertueusement. Alors que le meilleur des citoyens, aux qualités civiques les plus grandes, ne sera pas nécessairement un saint ou une sainte. Et c'est la même chose avec beaucoup d'hommes et de femmes d'Église, engagés, dévoués sans limite, hyper actifs en Église. Ils ne sont pas ou ne seront pas nécessairement des saints et des saintes. Il était important qu'avec le retour imminent de Jésus, ce rappel du vrai but de l'Église se situe dans cet enseignement, car c'est une des très nombreuses corrections d'orbite qu'on va devoir s'imposer. Et passons, si vous le voulez bien, au deuxième chapitre, aimer l'Église. Ici également, il y a un préalable. Non seulement il faut savoir qui j'aime, mais aussi c'est quoi aimer. Et qui pourrait mieux que Dieu nous expliquer l'amour qu'on doit avoir pour l'Église? Lui qui se dit amour nous le donne, nous le prouve, nous l'enseigne et le réclame. Allons donc à son école. Disons d'abord que l'amour de l'Église est impensable et irréalisable en dehors de la pratique assidue, vraie et fervente du commandement nouveau de Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est saint Augustin, dans un commentaire sur le commandement nouveau, qui nous dit ceci. Celui qui nous donne l'amour nécessaire pour les autres et pour l'Église est celui qui dit, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. C'est pour cela qu'il nous a aimés, afin qu'à notre tour, nous aimions les autres, les uns les autres. Il nous a rendus capables de le faire en nous aimant, afin que par l'amour mutuel, nous soyons à la fois liés entre nous et devenions le corps d'une telle tête qu'est l'Église. Il n'y a pas non plus de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, nous dit Jésus. Et saint Paul le rappelle aux Éphésiens, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle, il a voulu se la présenter à lui-même, splendide, sans tache ni ride, ni aucun défaut. Il a voulu son Église sainte et irréprochable. Est-ce que moi, je suis prêt à donner ma vie par amour pour l'Église. Et l'on me fait